Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est parti pour contre-histoire. Nous retournons donc en Afrique pour suivre Kwame pendant son très long et terrible voyage. Alors, pour la première fois, je me suis mis à raconter la journée du 8 décembre 2012. L'entrée des deux hommes cagoulés dans notre maison, l'étonnement de mon père, la frayeur de ma mère, puis tous les quatre agenouillés, et bientôt l'homme qui compte jusqu'à 5 pour que ma mère tire sur mon père, sinon c'est l'autre qui va nous tuer, ma grande sœur et moi. Moi qui me cache quand j'entends le premier coup de feu, moi qui suis toujours cachée quand le second coup de feu fait un bruit sourd dans le salon. Puis les corps de mon père et de ma mère, allongés au sol, et pris de soubresauts. Pendant qu'il meurt, les deux hommes sur ma grande sœur. Enfin, leur dispute dans l'entrée pour savoir s'ils doivent me tuer ou non. Et ma grande sœur qui me fait signe de m'enfuir par la fenêtre entrouverte derrière la télévision. Tout en courant, j'ai arraché le sparadrap de ma bouche. Je me retournais tout le temps pour voir s'ils ne me suivaient pas. Dans mon idée, ils étaient venus à moto, et donc je guettais une moto. Voilà comment j'ai vu venir le taxi. Un enfant de 14 ans, il n'aurait pas dû s'arrêter. Chez nous, les enfants n'ont pas d'argent. Mais il s'est arrêté, et je me suis engouffrée dedans. J'ai donné le nom du quartier où habitaient des amis de mon père. Copargo. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné ce nom. Et il a démarré sans poser de questions. J'étais assis dans le taxi, hors d'haleine, et plus rien ne tenait debout dans ma tête. On allait se mettre à table, je m'étais enfui. En rentrant tout à l'heure, je retrouverai ma mère à la cuisine. Ma grande sœur allongée sur le sol, du sang entre ses jambes. C'est elle qui m'a dit de sauter par la fenêtre. « Sauve-toi, Kwame, sauve-toi !» Jamais je n'ai pris le taxi tout seul. Ma mère ne veut pas. Tu ne sais pas qui est le chauffeur. Il peut t'emmener où il veut. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Au retour, elle va me gronder. Il a failli renverser la femme avec le bébé. Il roule beaucoup trop vite. Si mon père était avec moi, il l'insulterait. Quand les deux hommes sont entrés, il a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» On était en train de rire devant la télévision, ma mère dans la cuisine, on allait se mettre à table. « Mes parents vont me chercher. » Mais c'est ma grande sœur qui m'a dit « Sauve-toi, Kwame, sauve-toi. » C'est elle, par la fenêtre derrière la télévision. Maintenant, tout seul dans le taxi, tu ne sais pas qui est le chauffeur, il peut t'emmener où il veut. Ma mère. « Tu saignes sous ta chemise, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. « Tu n'entends pas quand je te parle, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» C'était bien ma langue, je reconnaissais les mots, mais il ne me disait plus rien. « Qu'est-ce qu'il voulait savoir ? Qu'est-ce que c'est ?» a demandé mon père. « Qu'est-ce que c'est ?» Depuis le canapé, on entendait ma mère dans la cuisine, on allait se mettre à table, et c'est à ce moment-là que les deux hommes sont entrés. Des voleurs, ils vont emporter la télévision. C'est ce que j'ai pensé en les voyant avec leur cagoule. Des voleurs. Copargo, on est arrivé. Je suis sortie de la voiture, et alors seulement je me suis entendue le dire tout haut sur le trottoir. « On a tué mes parents ! On a tué mes parents !» De plus en plus fort et dans une espèce de sanglot qui jaillissait de ma poitrine.
Mmh. If I laugh just a little bit, maybe I can forget the chance that I didn't have to know you and live in peace.
peace. If I laugh just a little bit, maybe I can forget the plans that I didn't use to get you at home with me alone. If I laugh, ooh, just a little bit, maybe I can recall the way that I used to be before you and sleep at night and dream. If I laugh, baby, if I laugh just a little bit, oh yeah, da da da.
En voyant le sang sur ma poitrine, ils ont cru que le chauffeur m'avait frappé et ils l'ont pris à partie. Des gens ont commencé à venir. Il était en colère, sûrement, puisque je n'avais pas d'argent pour le payer. Puis ils ont compris. Le chauffeur a pu repartir et un couple âgé a dit à la petite foule qui m'entourait qu'ils allaient s'occuper de moi. Peu à peu, les badauds se sont dispersés et la dame m'a pris par la main. Tout cela est confus dans ma mémoire, mais je crois que les choses se sont passées à peu près comme je viens de les raconter. J'ai suivi ce couple qui m'a conduit dans un centre religieux. Je me souviens d'une église, d'un parc, d'un bâtiment où nous sommes entrés et où nous avons attendu dans une grande pièce. La dame avait gardé ma main dans la sienne. Elle me parlait. Je n'entendais pas ce qu'elle me disait, mais je n'aurais pas voulu qu'elle se taise. Au bout d'un moment, une religieuse est arrivée. La sœur a eu une conversation avec le couple, et puis ces gens sont partis, et je me suis retrouvée seule avec elle. Elle m'a pris la main, elle m'a dit qu'ici j'étais en sécurité, qu'elle s'appelait sœur Claudine et allait s'occuper de moi. Peux-tu me dire ce qui t'est arrivé ? J'ai répété que mes parents avaient été tués. J'ai dit que je ne savais pas pour ma grande sœur qu'elle était vivante quand je m'étais enfuie, mais que les deux hommes étaient encore dans la maison à ce moment-là. Comme je pleurais, elle n'a pas cherché à en savoir plus et m'a emmenée dans une chambre qui serait la mienne, le temps que l'on en sache un peu plus sur le sort de mes parents. Elle ne semblait pas croire qu'ils étaient morts, ni ma grande sœur, et le doute que je lisais sur son visage me remplissait d'espoir. Moi non plus, je ne pouvais pas le croire. De sorte que nous étions maintenant deux à considérer la chose comme tout à fait impossible. Elle m'a fait prendre des médicaments qui allaient me permettre d'éloigner un peu la douleur. Et en effet, alors même qu'elle continuait à me parler, je me suis endormie. Mais en me réveillant un peu plus tard, tout m'est revenu. Et la souffrance a été si violente que je n'ai pas pu me retenir de pleurer. Sœur Claudine est apparue aussitôt. De nouveau, elle m'a rassurée. Et de nouveau, je me suis remis à croire que j'allais retrouver mes parents. Elle ne m'a pas quittée. Et moi non plus, je ne voulais plus la quitter. J'avais besoin de l'entendre me parler pour ne pas devenir fou. Tandis qu'elle parlait, je pouvais croire qu'ils étaient vivants. Mais aussitôt qu'elle se taisait ou me laissait seule, j'étais submergée par une douleur qui me donnait envie de me frapper la tête contre les murs. Le soir de ce premier jour, elle a pris ma carte d'identité scolaire, la seule chose que j'avais emportée avec moi, car je la gardais toujours dans ma poche. Et elle m'a expliqué qu'elle allait se rendre à la maison pour savoir où se trouvaient à présent mes parents et ma grande sœur. Au retour, elle m'a dit qu'elle n'avait trouvé personne chez moi, mais que mes parents et ma grande sœur étaient à l'hôpital. Elle l'a dit avec une fermeté dans la voix qui ne laissait aucune place au doute. Par la suite, je lui ai demandé à plusieurs reprises qu'elle m'accompagne à l'hôpital voir mes parents, mais à chaque fois elle a refusé, me promettant que l'on irait quand ma blessure serait guérie. Aujourd'hui, je sais qu'elle m'a menti, naturellement. Une partie de moi l'a su sur le moment, j'en suis certain. Mais une autre partie a choisi de la croire pour trouver la force de continuer à vivre. C'était un mensonge, mais c'était un mensonge indispensable, auquel je me suis accrochée pour m'endormir le soir, pour me lever le matin, pour accepter de me nourrir, et certains jours pour accompagner Sœur Claudine dans ses visites ou faire avec elle quelques courses. Combien de temps est-ce que je suis restée dans cette maison, une sorte d'orphelinat en vérité? Un mois, deux mois, je ne saurais pas le dire, tellement j'étais fiévreux, hébété, accroché aux mots et aux gestes tendres de cette religieuse qui me donnait l'impression de ne vivre plus que pour moi et moi pour elle. Elle était malade et m'avait dit qu'elle devrait un jour retourner en Europe, en Espagne, son pays d'origine, pour se faire soigner. J'évitais de penser à ce jour, car elle était devenue ma seule famille. Puis un soir, elle a semblé soucieuse et nous avons eu ensemble notre dernière conversation.
Black population in Ela, Chaja Bay. And they try to fool the black population like Ela, Chaja Bay. High in I nose down, Jano Day, Jano Day, Jano Day.
Kwame, j'ai pensé que tu devais avoir de la famille au village, celui où tu allais en vacances avec tes parents. Mon grand-père était mort l'année passée, et quelques mois plus tard, ma grand-mère l'avait suivi. Cependant, j'ai dit qu'en effet, j'avais de la famille là-bas. Je pressentais qu'il se passait quelque chose de grave et que je devais aider Sœur Claudine à trouver une solution. « Alors il faut partir, » m'a-t-elle répondu sévèrement. « Pourquoi ? » ?»« Je ne peux pas tout te dire, mais il est préférable que tu quittes rapidement la ville, au moins pour quelque temps. Ta brûlure est bien cicatrisée maintenant. Tu n'auras plus à t'en préoccuper. Les tueurs avaient-ils appris que j'étais réfugiée chez elles? Avaient-elles reçu des menaces? Je ne le saurais jamais, car sœur Claudine est morte en Europe l'année suivante. Dès le lendemain, nous avons préparé mon départ. Elle m'a fourni tout ce que je devais emporter, sac de voyage, vêtements, chaussures, médicaments, nourriture. Puis elle a fermé la porte de ma chambre pour que personne ne vienne nous déranger, et elle a sorti de sa poche une liasse de billets. Écoute-moi bien, Kwame. Voilà 500 €. Je ne peux pas te donner plus, malheureusement. Mais cet argent doit pouvoir te permettre de vivre décemment un certain temps. S'il peut t'apporter un peu de réconfort et t'aider à traverser cette période si douloureuse, je serai heureuse. Prends-le et sache qu'à chaque instant, je penserai à toi. Jamais je n'avais vu autant d'argent. Dans mon pays, si tu as 500 € dans ta poche, tu es très riche, tu peux tout acheter. Je sais aujourd'hui que je dois ma survie à cet argent. Je sais tout ce que je dois à sœur Claudine. Elle ne quitte pas mon cœur. Nous sommes allés ensemble à pied jusqu'à la gare routière. Les rues étaient silencieuses. Le jour n'était pas encore levé. Sœur Claudine m'a acheté mon ticket de bus et puis elle est allée parler au chauffeur. Elle lui a dit de veiller sur moi et surtout de bien me faire descendre au village. 3 ou 4 fois, elle lui a répété le nom du village. « Compris, ma sœur, » il a dit. « Le petit va s'asseoir là, derrière moi. Il n'a rien à craindre. » Jusqu'au départ du car, elle est restée à me tenir la main. Et puis, quand je suis montée, j'ai vu par la fenêtre qu'elle pleurait. Nous avons roulé toute la journée. Le village, c'est à peu près 500 kilomètres depuis la capitale. Mais c'est pendant cette journée que j'ai su que je n'irai pas. Si je retourne au village, je vais rester avec qui? Mon grand-père est mort, ma grand-mère est morte. Il n'y a personne qui va s'occuper de moi au village. Tout le monde s'en fout de moi. En Afrique, quand tu perds tes deux parents, tu as tout perdu. Il ne faut pas penser que quelqu'un va prendre soin de toi, comme si tu étais son enfant. Les 3 premiers jours, oui, peut-être, ils vont te donner à manger. Mais ensuite, ils vont te lâcher. Débrouille-toi. Quand tu perds tes parents, tu vas essayer de vivre, mais en vérité, tu ne peux pas. C'est trop dur. En ville, oui, parce qu'il y a des orphelinats, des personnes comme sœur Claudine, mais pas au village. Là-bas, tes amis avec qui tu vas jouer, ils vont t'insulter avec ça, comme si c'était toi le criminel, comme si c'était toi le responsable. Ils vont te dire que c'est à cause de toi si tu as perdu tes parents. Tu les as fatigués, tu les as embrouillés et ils sont morts. Ils vont te dire que c'est ta sorcellerie qui les a tués. Un jour, ma grande sœur avait demandé à mon grand-père pourquoi il n'avait pas fait d'études. Et dans le car, je me suis souvenue de ce qu'il avait répondu. Il avait perdu son père très jeune, et c'est son oncle qui l'avait pris chez lui. Aussitôt, l'oncle l'avait mis à travailler dans les champs, parce que mon grand-père ne serait pas tenu de s'occuper de lui plus tard, quand il serait vieux. En Afrique, si tu t'occupes de ton enfant, si tu lui payes des études pour qu'il réussisse, c'est pour qu'il s'occupe de toi quand tu seras vieux. Si ce n'est pas ton enfant, mais juste ton neveu, il n'est pas tenu de s'occuper de toi. Alors pourquoi tu lui payerais des études? L'oncle, il s'en fout de la vie de celui-là. Mon grand-père avait expliqué qu'il avait payé de longues études à notre père pour que plus tard, lui, mon grand-père, ne manque de rien. J'ai su que je n'irais pas au village parce que là-bas, il n'y avait pas de vie possible pour moi. Si sœur Claudine ne m'avait pas donné tout cet argent, j'y serais allée, je serais sans doute aujourd'hui un homme occupé à travailler la terre du matin au soir. L'argent de sœur Claudine m'a donné la possibilité et la force de fuir un destin misérable et peut-être la mort. Mais pour aller où? Dans un autre pays, voilà. Je me souviens combien fuir celui-ci a provoqué en moi une sorte d'apaisement. Et après? Après, je ne savais pas. J'étais trop épuisée, trop occupée à me défendre contre les images qui me revenaient, contre la peur, contre le chagrin, pour imaginer mes premiers pas dans une autre vie. Un autre pays. Ces 3 mots, seuls, éveillaient en moi une possibilité de penser à demain, de respirer plus calmement. Je n'aurais pas su dire ce que j'allais y faire. Me demander seulement où j'allais dormir quand il ferait nuit me remplissait de peur. Alors comment j'aurais pu imaginer ce que j'allais faire dans un autre pays, tout seul, sans mes parents, sans ma grande sœur? C'était inimaginable. Et moi-même, je me disais, là où l'argent finira, je m'arrêterai. Et qu'arrivera-t-il alors? Je ne savais pas. Je n'y pensais pas. Une fois, la gare routière, tout près du village, le chauffeur m'a fait signe. « C'est ici, n'oublie pas ton sac. Tu sais aller chez tes grands-parents ?»« Oui, oui, merci. »« Alors va vite, mon garçon. » Il était tranquille pour moi. Il n'a pas su. En vérité, j'ai cherché un autocar pour le Ghana. Je savais que le village était tout près de la frontière avec le Ghana. Une dame m'a montré le bon car. J'ai acheté un ticket et je suis montée dedans. Bon courage à tous, le voyage est très long et très dur. Et il nous apprend quel est le courage que peut avoir un enfant de 14 ans. Quand je suis dans le bus pour Accra, je ne peux pas m'empêcher de penser à mes parents parce qu'il y a des femmes qui sont avec des enfants de mon âge, 14 ans. De nouveau, je pense à ma mère, à mon père. Si ta mère est morte, Kwame, si ton père est mort, tu fais quoi? Tu ne peux plus aller à l'école, tu ne peux plus profiter de rien, tu deviens quoi? Je me dis que j'ai perdu mes parents, mais que ma grande sœur, je ne l'ai pas perdue. Je l'ai vue, elle m'a parlé, elle m'a fait des gestes pour que je saute par la fenêtre. Est-ce qu'ils sont revenus après pour l'assassiner? Je ne sais pas. Je ne veux pas penser à ça, j'ai envie de pleurer. Alors je me tourne vers la fenêtre pour que les gens ne me voient pas pleurer. Je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai des problèmes. Est-ce qu'ils sont revenus après pour l'assassiner? Non, je ne veux pas penser à ça. Ma grande sœur, elle est vivante. Et si elle est vivante, j'ai encore une famille. Si elle est vivante, je ne suis pas tout seul sur la terre, parce qu'elle ne va pas m'abandonner. C'est elle seule qui me reste si mes parents sont morts. Mais non, ce n'est pas possible. Mes parents ne sont pas morts. Je ne crois pas à ce qui s'est passé et j'arrête de pleurer. Voilà, maintenant je suis tranquille sur mon siège. C'est une chose qui m'aide beaucoup plus. C'est une chose qui m'aide beaucoup de ne plus croire à ce qui s'est passé. Me dire qu'ils sont vivants. Où que je sois sur la terre, ils vont venir me chercher, bien sûr. Mon père, il n'a peur de rien. Il connaît partout des gens, des ministres, des policiers, des journalistes, de la radio. Où que je sois sur la terre, il va me retrouver. Je me sens mieux maintenant. Quand l'autocar s'arrête, je descends avec les autres pour acheter à manger. Il y a des femmes qui vendent des oranges, des ananas. Tout le monde est content de s'arrêter un peu et de manger des fruits. Et moi aussi, je peux être là à manger une orange au bord de la route, sous le soleil, et penser que pendant un moment, je ne suis pas malheureux. Nous sommes partis de la frontière du Ghana pour arriver aujourd'hui jusqu'en Libye, ou à proximité. Il fait encore jour, il est peut-être 16 heures quand on arrive à la gare routière d'Accra. Je prends mon sac et je descends. C'est une gare internationale, immense. Il y a des gens qui sont couchés partout, sur des sièges, par terre, en attendant de repartir pour une autre destination, sûrement. Personne ne me demande d'où je viens, ce que je fais là. Je suis fatiguée, mais j'ai faim aussi. Alors je vais un peu dans la ville pour acheter à manger et je reviens me coucher par terre devant la gare. Il ne fait pas froid, tu n'as pas besoin de couverture pour dormir. Quand je me réveille, c'est le matin. Il fait jour. Soudain, j'ai très peur parce que je ne trouve plus mon argent dans ma poche. Pendant quelques secondes, je pense que si on me l'a volé, c'est fini la vie pour moi. Mais non, il est là. C'était juste que mon pantalon s'était tourné sur ma jambe pendant la nuit. Des gens courent partout autour de moi, mais personne ne me marche dessus ni ne me demande ce que je fais là au lieu d'être à l'école. De nouveau, je prends mon sac et je marche un peu dans la ville pour trouver à manger, puis je retourne à la gare. Pendant 2 ou 3 jours, j'habite dans la gare. C'est là que je me sens le mieux. Je vais chercher à manger dans les rues autour et puis je reviens vite dans la gare. Je m'endors en faisant bien attention que mon argent soit toujours au fond de ma poche. La seule chose qui me préoccupe, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire quand mon argent sera fini? C'est pourquoi, tout le temps, je le touche. Il y en a tellement que je n'arrive pas à compter combien il va me falloir de jours pour tout dépenser. Des dizaines et des dizaines. Ça me tranquillise de ne pouvoir même pas les compter et je m'endors sans penser à rien d'autre. Le troisième ou quatrième jour, je vois deux Ghanéens qui mangent à côté de moi, assis par terre. Des grands, peut-être 20 et 25 ans. Ils ne parlent pas en français, mais en Ashanti. L'Ashanti est très proche de la langue qu'on parle chez moi, et je comprends tout ce qu'ils disent. « Ton argent, le peu que tu as, tu vas le bouffer ici, » dit le plus vieux. « Et après, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Oui, » dit l'autre, « il n'y a rien à faire ici, pas de boulot, rien. Faut pas rester là. » « En Libye, on va être comme des rois, » reprend le premier. « Là, tout est gratuit, tu ne payes pas l'électricité, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas la nourriture. Et en plus, il y a du boulot. Là-bas, t'es content, tu peux vivre tranquille, comme des rois, je te le dis. » La Libye, je ne sais pas où c'est, mais c'est un pays qui me donne envie si la nourriture est gratuite. Quand mon argent sera fini, si je suis en Libye, ça ira quand même pour moi. Voilà ce que je pense en les écoutant. C'est vrai que la Libye, c'est comme vous dites, gratuit et tout. Il s'interrompt et me sourit. Ben oui, c'est vrai, mais c'est loin. Je peux partir avec vous. En Libye? Mais t'es un enfant, toi. Qu'est-ce que tu vas faire en Libye tout seul? J'ai 17 ans, je ne suis pas si petit.
T'as 17 ans, toi, tu rigoles, t'es un petit.
Moi, je crois que t'as même pas 15 ans. Et que tu dis ça pour partir avec nous,
ouais.
J'ai 17 ans, c'est vrai.
Ben, tu les fais pas, dis donc.
Et puis, c'est très cher, le voyage. T'as l'argent?
Oui, je peux payer.
Ben, si t'as l'argent, tu peux venir avec nous, si tu veux. Va acheter ton ticket et tu viens.
Un ticket pour la Libye, je demande?
Non, ici, à Accra, ils ne savent pas où c'est la Libye. Tu demandes un ticket pour Niamey, c'est au Niger.
D'accord. Et vous m'attendez alors?
T'en fais pas, t'as tout le temps. On est jeudi. Là, et l'autocar pour Niamey, il part pas avant lundi.
Thank you.
En attendant l'autocar du lundi, je ne suis plus seule. Les deux Ghanéens habitent dans la carotière comme moi. Quand on a faim, on va acheter ensemble la nourriture et on revient la manger dans la gare. Au début, ils me regardent comme un petit et ils continuent à parler entre eux sans trop s'occuper de moi. Tout change quand je les entends s'inquiéter qu'au Burkina Faso et au Niger, les policiers et les militaires ne parlent pas l'Ashanti, seulement le français. Ils ont peur qu'on leur fasse des ennuis à la frontière, au corridor, comme on dit chez nous, parce qu'ils ne comprendront pas ce qu'on leur demande. « Mais moi, je parle le français, je dis bien fort pour qu'ils m'entendent. »« Toi, petit, tu parles le français? Vraiment ?» Ils ont l'air de ne pas en croire leurs oreilles. « Ben oui, à la maison, on parle le français. »«
Alors ça, c'est bien, dis donc. Tu vas être notre interprète dans le corridor. »
« Oui, c'est facile pour moi. Le policier y parle et aussitôt je vous traduis. »«
Formidable, Kwame, t'es avec nous, tous les trois. On est dans la même équipe pour la Libye. »
J'allais leur servir à quelque chose. Alors maintenant, ils étaient contents que je sois avec eux. Ils ne me regardaient plus comme un enfant qui s'était accroché à eux. Ils me posaient des questions et comme souvent, je ne comprenais pas la question, je répondais que j'étais d'accord.
« Mais donc, tes parents, ils te laissent partir tout seul comme ça ?»«
Ben oui, faire ma vie. Mon père aussi, quand il était jeune, il est parti. Et au retour, il avait de l'argent et il a marié ma mère. »«
Qu'est-ce qu'il fait ton père ?»«
Professeur. »« T'es courageux, dis donc. »
Bientôt, nous sommes cinq, parce que deux autres Ghanéens viennent manger avec nous. Un très jeune, de 17 ans peut-être, et un autre de 20. Eux aussi, ils veulent partir pour la Libye. Ils disent que là-bas, il y a tellement de boulot que tu deviens riche en quelques mois. J'essaye de ne plus penser qu'à la Libye, un pays où la vie est facile, où les gens sont contents que tu viennes parce qu'ils ont besoin des Africains pour construire leur maison, leur piscine, tout ce qu'ils peuvent payer parce qu'ils ont plus d'argent que dans n'importe quel autre pays. C'est ce que disent les Ghanéens. Et ils rient et ils se tapent sur les cuisses et ils ont hâte de partir. D'ailleurs, le soir de ce jour-là, où on les rencontre, ils viennent nous dire qu'ils ont trouvé un autre autocar pour Niamey. Le voyage est peut-être plus long parce qu'ils passent par le Togo, mais ils partent 3 heures plus tard.
« Vous venez avec nous? On part tous les cinq ?»
On dit oui, et puis non, parce qu'on a déjà acheté les tickets pour l'autre car et qu'on ne peut pas les changer.
« Dommage, ils disent. Alors on se reverra à Tripoli. »
Et de nouveau, on n'est plus que trois à attendre le car du lundi. Enfin arrive le matin du départ. Le chauffeur charge le car et nous on monte. On se met devant pour regarder la route, les deux Ghanéens à droite et moi juste derrière le chauffeur. Je ne suis plus seule, je me sens plus fort. Et quand je pense à la Libye, ce que j'imagine m'empêche de me souvenir de ce qui est arrivé. Traverser tout le Ghana jusqu'au Burkina Faso. C'est peut-être 700 kilomètres. On passe à Haut. On s'arrête à la gare routière de Yendi pour manger et pour que le chauffeur se repose. Ce n'est que le lendemain qu'on arrive au corridor. Tout le monde doit descendre et les policiers te demandent ton passeport. Moi, je n'ai que ma carte d'identité scolaire que m'a rendue Sœur Claudine.
Comment ça se fait que t'as pas de passeport, toi? T'es tout seul? Tu voyages tout seul à ton âge?
« Je vais retrouver mes parents à Niamey. »«
Ah, t'habites là-bas. Alors tu parles le français ?»«
Bien sûr que je parle le français, je dis en français. »«
Il n'y a pas de problème alors. Donne-moi 1 000 francs et je te laisse passer. Tu remontes dans le car et t'es tranquille jusqu'à Niamey. »
Les policiers, c'est tout ce qui les intéresse. Ils s'en foutent que t'aies pas de papier du moment que t'as de l'argent. Ils s'en foutent de qui tu es, de ce que tu trafiques. Si tu peux payer, tu peux aller où tu veux. » Au Burkina Faso, on s'arrête seulement pour manger à la sortie de Fada N'Gourma.
Hé, Kwame, tu descends avec nous ?
Cette fois, les deux Ghanéens ont vraiment besoin de moi, parce que les Burkinabés ne comprennent pas l'Ashanti. Ils me disent ce qu'ils veulent manger, je demande le prix pour eux, je traduis, et je vois comme ils me sourient.
Oh, Kwame, t'es un vrai mec, toi ! Tu parles bien le français, dis donc !
On commence à rigoler ensemble, à se raconter des blagues.
Je vois qu'ils sont contents de m'avoir avec eux. Et maintenant, je me sens vraiment protégée. Bien sûr que si un gars voulait me chercher des ennuis ou m'arracher mon argent, il me défendrait, bien sûr. Ça me fait du bien de penser qu'on est amis et que je ne suis plus complètement seule sur la terre. On ne se quitte plus, on est comme une petite famille. C'est eux qui achètent à manger pour nous trois. Ils ne veulent pas que je paye parce que je suis petit. Garde ton argent, Kwame. Avec eux, on mange le gari, de la farine de manioc. Tu mets de l'eau dedans et en moins de 2 minutes, ça gonfle. Tu mets du sucre et tu manges ça. C'est bon, c'est très solide dans le ventre.
Merci d'écouter Contre-Histoire.
Charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le mont Pelé et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum? La tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines. Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous sont pas à la cuisine, à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on prie avec la Bible, faites le carnaval comme toute la Caraïbe, que nos piments sont redoutables, nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc et au son des tambours qu'on va aux enterrements, et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent casse en tôle tous les vêtements? Sais-tu comme enfants et femmes labouraient les champs et puis coupaient la canne? Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime? Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies? Mais putain, sais-tu encore qu'aujourd'hui Madinina, l'île aux fleurs, est une colonie? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
Arrivé à Niamey, on ne sort pas de la gare routière. Tout de suite, on cherche l'autocar pour Agadez, l'autre grande ville du pays, et on achète les tickets. Niamey-Agadez, c'est 2 jours de route, 1000 kilomètres à peu près. Les deux Ghanéens y savent déjà tout. Sans eux, je serais peut-être encore dans la gare routière d'Accra à me demander ce que je vais faire. Ils savent que pour passer en Libye, c'est à Agadez que tu vas trouver quelqu'un pour t'aider. Parce qu'en Libye, on ne peut pas entrer comme au Niger. Ben non, faut payer un mec pour te faire passer. Mais tu disais qu'il y avait du boulot en Libye. Une fois que t'es à Tripoli, ils te donnent du boulot, c'est facile. Mais sinon, ils ne veulent pas de toi en Libye. Ils ne veulent pas des Africains. C'est pas gagné comme ça de profiter de Tripoli. Tu comprends ? Je ne suis pas sûre de comprendre, non. Mais j'acquiesce. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis petit et que je ne sais rien. Dès le lendemain, avant le lever du jour, on quitte Niamey et on roule vers Agadez. Depuis le Ghana, j'ai la diarrhée. Mais là, de Niamey à Agadez, je suis vraiment malade. Je dois me retenir et j'ai tout le corps qui tremble. À peine le car arrêté, je cours aux toilettes. Mon ventre coule, coule. Et quand je regagne le car, j'ai l'impression d'être fragile comme un vieillard. Dès que tu descends du car à Agadez, il y a des mecs qui viennent te parler. « Libye, Libye !»« Oui ?»« Vous êtes ensemble tous les trois ?»« Tu parles français, toi, le petit ?»« Je parle français, oui. »« Togolais ?»« Ghanéen !»« Je vous emmène. » On arrive chez une dame, une Ghanéenne, très gentille. Elle parle l'Ashanti. « Vous êtes ici chez vous ?» La télévision est allumée. Elle regarde la chaîne d'Accra. Les deux Ghanéens sont contents. Ils rient et ils se laissent tomber sur le canapé. Moi, je cours aux toilettes. Et puis, elle nous propose de prendre une douche. Et ensuite, elle nous donne à manger. D'autres Ghanéens arrivent bientôt et d'autres étaient déjà dans la maison. Eux aussi, elle les invite à venir manger. « Prenez, prenez, mangez autant que vous voulez. Vous êtes fatigués. » Je me sens bien chez cette dame, chez qui nous passons la nuit. Des souvenirs de la maison me reviennent et j'ai envie de pleurer, alors que justement, je me sens moins perdue. « Tu es jeune pour partir, toi, » dit-elle en me regardant manger le lendemain matin. « Parfois, il en vient de ton âge, mais alors ils sont avec leurs parents. »« Il n'est pas si jeune, il a 17 ans, » rétorquent les autres en riant. « Ah bon, je te donnais moins. » Et puis elle pose ses conditions, et ce matin-là, on est tout un groupe à l'écouter parler. Mais même là, elle continue d'être gentille. Elle dit qu'elle va nous faire passer en Libye, et que son prix pour nous emmener là-bas, c'est 130 000 francs CFA par personne, presque 200 euros. Ça me paraît énorme, et sur le coup, je ne suis pas sûre de les avoir encore. Si vous les avez, vous pouvez partir dès cet après-midi. Mais sinon, vous appelez votre famille pour qu'elle vous verse de l'argent et en attendant, restez ici, vous êtes chez vous. Après ça, je lui montre tout ce qu'il me reste en lui expliquant que je veux garder 100 euros pour me nourrir les premiers temps en Libye. Oui, tu fais bien. Alors elle compte ce qu'il reste pour elle. Il n'y a pas suffisamment, mais elle est d'accord. Tu es petit, tu ne prends pas beaucoup de place. Tu vas partir quand même, ne t'en fais pas. Puis elle s'inquiète que je n'ai rien pour me couvrir, car elle dit que dans le désert il fait très froid la nuit. Elle regarde les quelques vêtements que m'a donné sœur Claudine, elle réfléchit, et puis elle appelle un des gosses de la maison, lui glisse un billet et lui demande d'aller m'acheter un manteau en ville. Nous, maintenant que nous sommes chez elle, nous n'avons plus le droit de sortir avant le départ.
Bon courage à tous, le voyage est très long et très dur.
Voilà, nous sommes 21 Ghanéens, prêts à partir pour la Libye. L'autocar, je pense alors que c'est un autocar qui va nous emmener, doit arriver à 16 heures. En attendant, nous avons reçu chacun un bidon de 10 litres d'eau dans un de ces sacs qui servent à transporter le cacao. Le nom de chacun est inscrit sur le sac. Chacun a son eau. Si vous perdez le bidon ou si on vous le vole, vous avez toutes les chances de mourir de soif, nous prévient la dame dans une sorte de petit discours d'au revoir. Ah bon ? Mais comment on pourrait mourir de soif si on est tous ensemble dans le car? C'est ce que je me demande silencieusement en l'écoutant. Je vais être franche avec vous, poursuit-elle. Vous allez traverser le désert, et je ne peux pas vous garantir que vous allez arriver vivant de l'autre côté. Disons que vous avez une chance sur deux d'y arriver. Je pense que le chauffeur est bon. Et lui aussi tient à sa vie, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de dangers dans le désert. Le voyage peut durer une semaine comme un mois, et très mal se finir. Vous devez le savoir, et être bien certain de vouloir partir. Quand elle se tait et nous souhaite bon voyage avec un sourire, je sors de la pièce. Je vais m'asseoir devant la maison et je me mets à pleurer. Je pleure parce que, si je meurs et que ma grande sœur est en vie, elle va me chercher et jamais ne me retrouvera. Alors, comment va-t-elle faire pour continuer à vivre sans nos parents en se demandant chaque jour « Où es-tu, Kwame ? Tu n'avais pas le droit de disparaître. Si je t'ai fait signe de t'enfuir par la fenêtre, c'est pour que tu restes vivant. Je t'ai sauvé la vie et tu as disparu. Je n'avais plus que toi. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché ?» Pour la première fois, je regrette d'être partie. J'aurais dû dire à Sœur Claudine que je voulais rester, chercher ma sœur, jusqu'à savoir si elle était vivante ou morte. Je risquais d'être tuée. Et alors, ici aussi, dans le désert, je risque de mourir. Mais il est trop tard pour revenir en arrière.
Jaja, I sweet in ya, you treat your fight integrity. If Jaja live for I sweet Jaja, I sweet in ya, you treat your fight integrity.
Jaja no need.
Jaja no need. Jolly.